Stop, c'est parti.
Regardez-moi la télé.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Bon voilà, il est presque 9h42. L'Instant M n'a pas encore d'invité, mais c'est pas grave, on démarre.
Vous êtes en direct, allez-y.
Premier numéro de Têtu en 1995. Sa couverture était un cri. Sortez, sortez du placard, sortez dans la rue, sortez à la plage. 2018, Têtu revient en kiosque. Sa couverture aurait pu être un nouveau cri. Rentrez, rentrez vous mettre au chaud, rentrez vous cacher. Les agressions sont devenues trop fréquentes, trop banales. Ouvrez le nouveau Têtu, l'alarme est là. Mais à la une, deux garçons qui s'enlacent, Têtu a choisi la douceur et la tendresse. Le journal y affichait d'antan le nu, la provoque et la transgression, changement de génération. Têtu devient un magazine de culture et de société qui privilégie les sujets de fond dans un contexte d'homophobie ordinaire et de renouveau du combat politique pour la PMA. Leurs illustres prédécesseurs étaient nés médiatiquement dans la lutte contre le sida. On croyait l'urgence retomber, la communauté délitée, elle renaît et se réinvente dans les médias.
L'Instant M, Sonia De Villers, sur France Inter.
Yes, il est là, mon invité, totalement essoufflé.
Je suis désolé, ouais, c'était le bololo, comme on dirait le Premier ministre
c'était
sur la route.
Le bololo. Le bonjour d'arriver. Romain Burel,
bonjour.
Nouveau directeur de la rédaction du Nouveau Têtu. Ça va aller ?
Ouais, ouais, ça va, j'ai repris mon souffle.
Voilà, vous avez un petit peu d'eau.
C'est gentil.
Allez, on va commencer par quelque chose qui nous concerne tous et pas du tout seulement la communauté LGBT. Stupéfaction, Gareth Thomas, une montagne, ancien trois quarts gallois surpuissant, un dieu du rugby, notamment en sa vie de Cardiff témoigne le visage tuméfié.
This morning I decided to make what I hope will be a positive video. Last night I was the victim in my home city of a hate crime for my sexuality. Why I wanted to be positive? Because I want to say thank you to the police who were involved and were very helpful and allowed me to do restorative justice with the people who did this because I thought they could learn more that way than any other way. And also to the people of Cardiff.
On ne l'a pas traduit parce qu'on voulait qu'on entende sa voix, on voulait qu'on entende l'émotion de Gareth Thomas qui remercie la police et les gens de Cardiff, nombreux qui l'ont soutenu après cela. Votre édito, Romain Burel, s'ouvre sur l'une des agressions que vous avez vous-même subies et vous la racontez très simplement, comme si c'était une façon de dire ben « moi aussi, comme tout le monde ».
Ouais, moi aussi, une journaliste de Têtu encore cet été
ouais.
S'est fait agresser. Ça me semblait important de dire qu'on est tous concernés.
C'est ça.
Que ça peut nous tomber dessus à n'importe quel moment. Parfois, le lecteur Têtu peut se dire que les gens qui font ce magazine sont loin d'eux, dans un petit microcosme parisien, ouais. Etc. Et en fait, non. J'ai raconté deux agressions. J'en ai pas subi que deux.
Ouais.
La première, qui était très violente.
Très violente. Hein.
J'avais eu 21 jours d'ITT.
C'est ça, c'est une agression physique.
Ouais.
Hein. Ouais.
Parce que
c'est
j'étais
du cassage
avec
de gueule en règle.
Ouais, parce que j'étais avec mon boyfriend au téléphone et les gens qui sont passés à côté supportaient pas ça. Mm. Et cet été, avec une jeune fille dans le métro qui supportait pas que je l'ai frôlée
ouais.
Et qui me traite de sale pédale.
De sale pédale.
Parce
ouais.
Que vraiment, c'était
sale pédale,
insupportable.
Hein, c'est le genre de choses qu'on a réentendu ce week-end au moment des blocages des gilets jaunes. Hein. Il y a eu des rentes dans le pays et des cris de singe,
ouais,
mais il y a eu aussi des sales pédés. Vous avez choisi un angle bien particulier. Vous avez choisi l'école comme lieu de souffrance. Vous l'indiquez d'ailleurs, le taux de suicide des jeunes LGBT est beaucoup plus élevé.
De 2 à 7 fois plus élevé selon les études.
De 2 à 7 fois, c'est ça.
Que chez leurs jeunes camarades hétérosexuels.
C'est ça. Mais c'est pas rien de donner un visage, de donner un prénom, de donner une voix à ces témoignages. C'est pas seulement une enquête, c'est pas seulement une interview du ministre de l'Éducation nationale. C'est aussi peut-être une façon de reformer une communauté pour toute une jeune génération bi, gay, lesbienne, trans, qui a besoin peut-être de s'ancrer quelque part.
Une jeune génération, mais même les plus âgés, parce qu'on est tous passés par l'école.
Ouais.
Et ce que racontent ces gamins, on l'a très souvent tous subi, et toutes. Et moi, c'était un dossier que j'avais très très envie de faire depuis des années, en fait. Et qui me tenait beaucoup à cœur, pour 25 millions de raisons, parce que j'étais pigiste avant à Têtu, etc. Ça ne s'est jamais fait. Et forcément, c'était le premier combat qu'on voulait mener. Parce que l'école, c'est le premier lieu de souffrance, souvent, quand vous êtes un jeune LGBT.
Et puis c'est là où l'on se construit,
c'est
socialement.
C'est là où on se construit, c'est là où on comprend qui on est, c'est déjà difficile. et c'est un lieu de violence incroyable, et c'est souvent aussi le premier lieu où les adultes vous lâchent, où ils vous aident pas. Il y a des témoignages de professeurs aussi d'ailleurs dans ce dossier, mais il y a des gamins qui racontent à quel point les profs sont à côté, entendent les insultes, pédés, salgouines, et les
alors Romain Burel, au moment où on lance un nouveau média LGBT, on s'interroge forcément sur la représentation médiatique de la communauté. C'est le moment de faire un état des lieux. Pour la première fois dans cette saison sur M6 de l'Amour et dans le Pré, il y a Thomas, candidat à l'amour, candidat à la rencontre amoureuse. Il y avait déjà eu un agriculteur homosexuel, mais il n'avait pas été jusqu'au terme
du jeu.
Voilà, Thomas, on l'écoute.
Bon Thomas, qu'est-ce que ça t'a apporté l'émission, parce que j'en ai rien pu faire pour ton cœur. Hein.
Bah surtout de me connaître et d'ouvrir ce que j'avais refermé il y a bien longtemps, en fait.
Quoi, ta capacité d'aimer?
Ouais, c'est facile à fermer en fait. Hein. Ah ouais. Et c'est ce que je retiens de l'amour et dans le pré. C'est justement ça, ces petits pas que j'ai réalisés avec vous. Et voilà où j'en suis aujourd'hui avec quelqu'un que j'aime.
Alors ma question, c'est qu'est-ce qui manque à la télévision française? Prenons l'homosexualité masculine par exemple. Elle n'est absolument pas tabou. En 2004, il y avait déjà une émission sur TF1 qui s'intitulait Queer, un mot qui est pourtant souvent très mal compris du grand public, que vous pouvez traduire peut-être d'ailleurs.
Queer, c'est être gay ou autre chose, ne pas forcément se définir comme simplement homosexuel, avoir aussi ça peut être aussi un mot dans lequel on met une certaine connotation politique, de différence, d'être simplement quelqu'un de différent, de pas forcément avoir envie de
commander. Alors là, c'était pas politique du tout, c'était du relooking avec quatre garçons dans le vent hyper caricaturaux, mais des couples gays dans tous les dîners presque parfaits d'M6, dans tous les concours de chambre d'hôtes sur TF1, il y en a partout. Il y en a en fait depuis le départ de la télé-réalité
avec Stevie.
Non,
on les compte.
Les
moi, c'est vraiment
les Marseillais, etc.
C'est vraiment un combat pour moi. Je suis.
La question, c'est il y en a pas tant que ça où il y a toujours le même type de personnage dans ces émissions qui en fait relève de casting très précis et très intentionnel.
Alors c'est une question en fait hyper complexe. Moi, j'ai posé la question au moment de la télé-réalité. J'avais fait un dossier là-dessus il y a quelques années sur la représentation de l'homosexualité dans la télé-réalité. Il se trouve que dans la télé-réalité, souvent, on cherche des personnalités un peu extrêmes. Mm-hmm. Pour faire exister le show, c'est pas plus compliqué que ça. Souvent,
y compris pour les hétéros, hein, les nanas au sein refait, les mecs hyper bronzés, etc.
Si vous regardez les Ch'tis ou les Marseillais ou ce genre de programme, vous verrez que on cherche la cagole marseillaise. Oui. Voilà, c'est les stéréotypes. Donc forcément, mais en même temps, c'est des programmes qui ont compté parce que probablement que Stevie Duloft, quand il est dans l'émission à l'époque, ça veut dire quelque chose en fait. C'est la première fois qu'on voit un homosexuel à la télévision comme ça, en tout cas représenté. Donc dès le départ, dès la genèse des premières émissions de télé-réalité, l'homosexualité était déjà présente. Le gagnant de Duloft 2 était lui-même homosexuel. La télé-réalité, c'est une chose. C'est pas des programmes qu'on consomme beaucoup. C'est des programmes qui sont très très consommés par les jeunes.
Oui.
Donc c'est là qu'il y a un truc qui est un peu du domaine du souci, c'est que mine de rien, souvent le premier contact que vont avoir les gamins avec la représentation homosexuelle, c'est des caricatures.
C'est des caricatures.
Et là, ça pose une question. Moi, je pense qu'il faut que l'homosexualité, elle l'infuse dans toutes les programmes, pas simplement dans la télé-réalité, qui nous met beaucoup en avant, on a bien compris, mais aussi dans les séries télé.
Et là, séries télé, c'est... Alors, vous faites un dossier sur 10% et je vous renvoie à l'émission qu'on a faite la semaine dernière.
Qui était très très bien, d'ailleurs.
Fanny Herrero, qui est la créatrice de 10%, ça devient c'est un sujet formidablement traité, qui soulève beaucoup de questions dans 10%. En fait, ce qui manque à la télévision, je vais vous le dire, moi, c'est les personnages de flics, d'avocats, de juges, etc., qu'on voit tout le temps, qui rentrent à la maison après le boulot, qui embrassent leur mec et c'est tout.
Étrangement, il y en avait un peu plus il y a quelques années.
Ouais. Et c'est tout. C'est-à-dire que, en fait, ce qui manque à la télé, c'est que ça ne soit pas un sujet. C'est que ce soit banal.
Ce qui manque, c'est un écosystème. C'est-à-dire en fait qu'il y ait plusieurs représentations différentes de personnages LGBT, notamment dans les séries télé, si on parle un peu juste des séries télé. Parce que, du coup, quand Camille Cotin est la seule héroïne lesbienne d'une télévision diffusée à 20h50, forcément, elle a une responsabilité incroyable, parce que son rôle, il est scruté, et elle a un rôle de représentation. Donc, fatalement, quand il y a un petit problème dans la saison 2, on va dire, quand elle couche avec un garçon, toutes les lesbiennes de France se sentent trahies.
Oui.
Parce que fatalement, elles se disent, mince, pour une fois qu'on était bien représentées, il faut qu'elles couchent avec un mec. Et c'est la responsabilité qu'on fait peser sur les scénaristes et sur l'actrice qui incarne le rôle, elle est forte parce que simplement, on n'existe pas dans la fiction. Et moi, je crois beaucoup que, par exemple, le combat pour le mariage aux États-Unis, c'est gagné à Hollywood sur la représentation. C'est-à-dire, en fait, quand Hélène DeGeneres rentre dans tous les foyers américains, quand
animatrice de talk-show de l'après-midi extrêmement populaire,
quand des séries comme Glee ou Orange is the New Black banalisent les parcours de personnages LGBT, vous faites beaucoup plus pour la représentation et pour dire, en fait, pour la ménagère de moins de 50 ans qui, elle, est devant sa télévision, en train de se dire, mais en fait, ils ont les mêmes problèmes
Alors,
que moi.
Alors, il y a la question de la représentation médiatique dans les médias de masse, et puis il y a la question des traitements, du traitement, on va dire, journalistique, médiatique, de questions qui concernent directement les gays, les lesbiennes, les trans,
les bi,
etc. Voilà, tous, voilà. Et il se trouve que aujourd'hui, il y a énormément de médias qui ne se revendiquent pas spécifiquement LGBT, qui s'en sont emparés. Feu, BuzzFeed, Les Inrox, Slate Vice, et même Télérama, Society, la une de l'Express cette semaine, Néon, Gratia, Le Monde Magazine. En fait, les sujets que vous traitez dans ce nouveau Têtu, on peut les lire dans plein d'autres journées. Il y a eu un déplacement des sujets LGBT dans des médias généralistes, qui en soi est une bonne nouvelle. Comment vous positionnez vis-à-vis de cette offre-là?
Moi, je suis absolument persuadé que, alors d'une part, quand c'est génial de voir que les médias généralistes, depuis le mariage pour tous, ont fait vraiment, et c'était pas avant, hein, concrètement, ont une prise de conscience et se disent que maintenant ces questions-là, ils doivent aussi les traiter dans leur page. Par contre, je suis intimement persuadé que, avec toute la meilleure volonté du monde, vous pouvez pas traiter la même manière ces sujets que dans Têtu. Pourquoi? Parce que souvent, quand vous êtes un média généraliste, vous allez les traiter sous l'angle de l'actualité chaude. Donc forcément, à 90% sur un côté un petit peu anxiogène, fatalement, les news, donc comme l'Express le fait cette semaine sur les agressions, et c'est vraiment génial de voir cette couverture de l'Express, mais représenter des parcours positifs de personnes qui font des choses pour la communauté LGBT, c'est vachement plus dur, en fait, quand vous êtes à Libération, aux Inrock ou à l'Express, c'est pas dans votre ADN journalistique. Nous, dans Têtu, on publie les 30 LGBT qui bougent la France, c'est pas un dossier que j'aurais pu faire ailleurs. Moi, j'étais journaliste pigiste pendant 10 ans à peu près partout dans la presse française. C'est un dossier qu'on m'aurait jamais commandé.
Alors, il y a cette une tendre, douce. Oui, on peut la qualifier de douce, de tendre, de très jolie. Elle a même quelque chose de mélancolique. Vous parlez de parcours positif. C'est-à-dire que ce que Têtu n'est plus, c'est quelque chose de sulfureux. Alors, on pourrait vous dire, Têtu, ça devient propre, ça devient joli. Ça n'est plus un journal qui provoque. D'ailleurs, ça n'est plus un journal où il y a du cul, il y a plus de nu, il y a plus de fantasmes en réalité. Bon, pourquoi avoir abandonné cette partie-là?
Mais moi, j'y renonce pas. Hein. Concrètement, c'est un numéro un pour nous. Ouais. Donc, on a accès sur des dossiers.
Là, il y a des séries de mode, il y a des filles, il y a des garçons, il y a des noirs, il y a des blancs. Ça, c'est pas rien dans la presse gay aussi.
Ouais, mais bon, par exemple, on a appuyé sur plein de curseurs, on pouvait pas appuyer sur tous en même temps, mais moi, le sexe, j'y renonce pas du tout, hein, concrètement.
Sauf que c'est un marqueur très fort dans la presse homosexuelle et que c'est quand même pas rien qu'il soit quasiment absent visuellement, hein, je parle, des pages de ce nouveau magazine.
Ils le sont quand même.
Qui est beau, qui est bien édité, qui est complet.
On parlait des pages mode, on a une série Underwear qui est que je trouve assez cash et
avec des
agréable.
Slips jolis, blancs, gris, mais on dirait les pubs Loft de quand on était petit.
Mais non, c'est forcément, on va parler de sexualité, on va parler d'une manière cash. Têtu, c'est 22 ans d'histoire, c'est 20 ans de garçons à moitié nus en couverture.
Ouais.
Concrètement, nous, on voulait un peu se démarquer de ça, d'abord, mais ça veut pas dire qu'on le fera pas après, ça veut pas dire non plus qu'on fera pas de couverture sur la PMA, ça veut pas dire qu'on fera pas des choses plus sulfureuses. C'est un numéro un, on avait des choses
la
à dire
PMA,
importantes.
La PMA, c'est pas sulfureux.
Non, mais c'est un sujet qui pour un magazine qui a longtemps été estampillé masculin.
Masculin, absolument.
Et gay.
Ouais.
Qui est pas forcément facile à aborder en kiosque pour un lectorat qui a...
Et d'ailleurs,
mon lectorat est 93% masculin sur le presse magazine.
Mais d'ailleurs, vous avez aussi un site internet qui, pour le coup, est un vrai lieu d'infos extrêmement, extrêmement réactif et pour le coup, qui s'étend à tous les sujets LGBT et pas seulement la
communauté. Ouais, je voulais pas les séparer pendant très longtemps à Têtu. Il y avait Têtu et Têtu E.
Ouais.
Et cette ségrégation, entre guillemets, je la trouve complètement conne. Moi, ça m'intéresse. Les questions de la PMA, ça m'intéresse. La question des personnes transgenres, des personnes intersexes. J'apprends des choses avec les témoins avec des témoignages, en rendant la parole aux personnes LGBT. C'est toute l'ambition qu'on a hein, journalistiquement, c'est de se dire, on vous rend la parole. Mmh. Prenez-la à la têtu et parlez, et qu'on veut vous entendre. On veut pas parler à votre place, on veut vous donner la parole.
Alors, il y a le cash, et là, pour le coup, le cash qu'on ne lit pas ailleurs. Il y a des rubriques sexo, il y a une rubrique santé. La PrEP, par exemple. La PrEP. Expliquez ce que c'est que la PrEP. Parce qu'il y a énormément d'auditeurs qui savent pas ce que c'est.
Ouais, il y a énormément d'homosexuels qui savent pas ce que c'est. C'est un traitement que vous pouvez prendre avant un rapport sexuel et qui réduit d'une manière drastique, voire qui amène à zéro quasiment les chances de contracter le VIH.
Donc c'est totalement révolutionnaire. C'est un cacheton qu'on avale au lieu de mettre une capote. C'est ça l'histoire.
Alors c'est pas au lieu de mettre une capote, on peut le prendre aussi en mettant des capotes. Mm-hmm. Il se trouve qu'on l'adresse beaucoup en France, notamment à des populations qui elles sont pas forcément toujours très prudente sur le préservatif, on va dire. Et aujourd'hui, ouais, c'est clairement par une certaine population homosexuelle, mais pas que homosexuelle d'ailleurs, parce que c'est pas les homosexuels sont pas les seules personnes concernées par le VIH.
Mais là-dessus, il y a un débat éthique, il y a un débat économique, il y a un débat médical. Et pour le coup, il y a un vrai manque d'information.
Ouais, et c'est pour ça que nous, on le tranche pas, on en parle, on essaie d'informer bien au mieux les personnes, en fait. Concrètement, vous pouvez être sous PrEP et continuer à mettre des capotes, hein, concrètement, mais ce débat-là, on l'a en ce moment même au sein de la communauté homosexuelle. Il se trouve que c'est un outil de plus pour lutter contre le VIH. C'est un outil, quand j'étais gamin, dont j'aurais rêvé de bénéficier.
Ouais.
Donc c'est quelque chose de très nouveau. Je sais qu'il y a des pour, il y a des contre. Moi, je pense que si ça peut faire réduire le nombre de personnes qui découvrent qu'ils sont séropositifs en France, c'est un outil qu'on doit élargir, sur lequel on doit absolument communiquer.
Et puis il y a l'idée de faire dialoguer les générations dans Têtu, parce que vous êtes des héritiers, vous êtes les héritiers d'une génération qui est née médiatiquement dans la lutte, je le disais, et dans la lutte contre le SIDA. Donc chaque numéro, c'est un trimestriel, vous faites se rencontrer.
On a une rubrique qui s'appelle
un petit jeu.
Le clash des générations.
Ouais.
Moi, c'est un truc assez important pour moi, auquel je pense depuis très longtemps. C'est je trouve souvent que les jeunes homosexuels et les homosexuels plus âgés ne se rencontrent pas assez. Ils dialoguent pas. Et c'était important pour moi dans cette idée de passer les choses, en fait, de dire voilà comment ça s'est passé pour moi. Là, on fait rencontrer un garçon qui a 23 ans et un monsieur, on va dire,
ouais, de 70 ans
et qui parle de la drague, comment c'était à leur époque respective. On se rend compte qu'il y a des ponts, qu'il y a des choses qui ont excessivement changé, notamment les applications aujourd'hui. Et en même temps, on se rend compte aussi que c'est quelque chose qui exclut un peu, quoi.
Et puis alors, vous jouez également sur les marqueurs de chaque génération. Vous êtes arrivé tellement en retard qu'on va pas avoir le temps d'écouter tout ça. Mais ce qui est extrêmement drôle, c'est que il y a toute une page sur une nouvelle icône gay, finalement, une pop star, Hailey
Kiyoko.
Et qui fait face à une pub pour le retour de Boy George et de Culture Club.
Mais aujourd'hui, c'est ça tournée. C'est ça la culture gay aujourd'hui, en fait, la culture LGBT, c'est qu'en fait, elle bouge depuis très longtemps et forcément, il y a une histoire et en même temps, il y a des nouveaux acteurs. Il y a des gens que je connaissais pas, Hailey Kiyoko. J'étais ravi de la découvrir à l'occasion de ce numéro. Je me rends compte aussi que chez le lectorat plus jeune, les icônes, elles ont beaucoup bougé et qu'ils ont plus du tout les mêmes que moi je pouvais avoir. Moi, j'ai découvert la culture gay un peu à rebrousse-poil, en découvrant qu'il y avait des choses avant dans les années 80 qui étaient sublimes, les années 70, etc. Aujourd'hui, parfois, on peut être coupé de ça. On peut ne pas savoir tout ça. Et tout l'intérêt qu'on a, c'est de pouvoir faire exister tout ça en même temps, dans le même magazine.
Merci beaucoup, Romain Burel. Têtu est en kiosque, c'est un trimestriel et très actif sur le web et très complet. La prochaine fois, vous arriverez à l'heure. J'ai encore plein de questions à vous poser.
Désolé.